Les derniers jours de Pompéi, livre 2, chapitre 1, une maison mal famée à Pompéi et les héros de l'arène classique. Transportons-nous maintenant dans un de ces quartiers de Pompéi qui n'était pas habité par les maîtres du plaisir, mais par ses élus et par ses victimes, dans l'antre des gladiateurs et des lutteurs à gages, des vicieux et des misérables, des vagabonds, et des débauchés dans l'Alsace d'une vie antique. C'était une large salle qui s'ouvrait sur une allée étroite et populeuse. Devant le seuil se tenait un groupe d'hommes, dont les muscles de fer bien formés, les coups herculéens et courts, les physionomies audacieuses et impudentes, indiquaient les champions de l'arène. Sur une tablette, en dehors de la boutique, on voyait ranger des cruches de vin et d'huile, et au-dessus, sur le mur, une grossière peinture représentait des gladiateurs buvant. Tant est ancienne la mode des enseignes. Des espèces de petites loges, comme on en voit de toujours, formées de tables séparées, occupaient l'intérieur de la salle. Autour de ces tables étaient assis des groupes d'hommes, dont les uns buvaient, les autres jouaient au dé, et d'autres à un jeu plus savant appelé duodécime scripta, que quelques-uns de nos savants mal renseignés ont commis l'erreur de prendre pour le jeu d'échecs, quoiqu'il ressemblât bien davantage au tric-trac et qu'on y servît le dé quelquefois, mais non pas toujours. Le jeu n'était pas encore très avancé, rien ne faisait mieux connaître l'indolence de ces habitués de taverne que cette heure matinale. Cependant, malgré la situation de la maison et le caractère de ses habitants, elle n'était point souillée de cette odieuse malpropreté qu'on rencontre dans les lieux semblables de nos cités modernes. Les dispositions joyeuses des Pompéiens, qui cherchaient du moins à flatter les sens lorsqu'ils négligeaient l'esprit, se révélaient dans les couleurs tranchées qui s'étalaient sur les murs et dans les formes bizarres, mais non pas sans élégance, des lampes, des coupes et des ustensiles de ménage les plus communs. « Par Pollux ! » s'écria un des gladiateurs en s'appuyant contre le mur d'entrée et en frappant sur l'épaule d'un gros personnage. « Le mec, tu nous vends, vieux Silène, suffirait pour rendre clair comme de l'eau le meilleur sort de nos veines. » L'homme à qui s'adressait ce propos et que ses bras nus, son tablier blanc, ses clés et sa serviette négligemment posées à sa ceinture, désignés clairement comme l'hôtelier de la taverne, était déjà entré dans l'automne de la vie. Mais ses membres étaient encore si robustes et si athlétiques qu'ils auraient pu faire honte aux nerfs des plus vigoureux assistants, si ce n'est qu'un peu trop de chair recouvrait ses muscles, que ses joues étaient bouffies à l'excès et que son ventre puissant effaçait presque la vaste et massive poitrine qui s'élevait au-dessus. « Ne plaisantons pas, » dit le gigantesque aubergiste avec l'aimable rugissement d'un tigre offensé. « Mon vin est assez bon pour une carcasse qui ramassera avant peu la poussière du sépularium. »« Mais c'est ainsi que tu croiras, vieux corbeau, » reprit le gladiateur d'un air dédaigneux. Mais tu vivras assez pour te perdre, pente de dépit, quand tu me verras obtenir la couronne de palmier. Et dès que j'aurai gagné la bourse à l'amphithéâtre, mon premier vœu sera certainement de renier à jamais toi et ton détestable pinard. Écoutez donc ce modeste Pyrgopolinis. Il a servi, assurément, sous Bomba Machines. Cluminstaridicias Kildes, s'écria l'aubergiste. Sporus, Niger, Tetraides, il déclare qu'il gagnera la bourse sur vous. Par les dieux, chacun de vos muscles est assez fort pour l'étouffer tout entier. Ou moi, je ne connais plus rien à la reine. Ah, dit le gladiateur dont la fureur commençait à colorer le visage. Notre laniste parlerait d'une façon bien différente. « Qui pourrait-il dire contre moi, orgueilleux Lidon ?» répliqua Tetraïdès en fonçant le sourcil. « Ou contre moi, qui ai triomphé dans quinze combats ?» s'écria le gigantesque Niger en s'approchant du gladiateur. ou contre moi ? Se mit à rugir Sporus, les yeux en feu. Paix ! Répliqua Lydon en se croisant les bras et en regardant ses rivaux d'un air de défi. L'heure de l'épreuve ne tardera pas. Gardez votre valeur jusque-là. Soit, dit l'hôte avec aigreur. Et si jamais cela pousse pour te sauver, je veux que le destin coupe le fil de mes jours. Parlez de corde et non de fil, dit Lydon avec un torailleur. Attenez, voilà un sesterce pour en acheter une. Le titan, marchand de vin, saisit la main qu'on lui tendait et la serra si violemment que le sang jaillit du bout des doigts sur les vêtements des assistants. Ils poussèrent un éclat de rire sauvage. « Voilà pour t'apprendre, jeune présomptueux, à faire le macédonien avec moi. Je ne suis pas un perse sans vigueur, je te le garantis. N'ai-je pas 20 fois combattu dans l'arène sans avoir baissé les bras une seule ? N'ai-je pas reçu l'épée de bois de la propre main de l'éditeur comme un signe de victoire et une permission de me retirer sur mes lauriers ? Alors faut-il maintenant que je subisse la leçon d'un enfant ?» En parlant ainsi, il lui lâcha la main avec mépris. Sans qu'un de ses muscles bougeât et en conservant la physionomie souriante avec laquelle il avait raillé l'homme, le gladiateur supporta cette étreinte douloureuse. Mais à peine eut-il repris la liberté de ses mouvements, que, rampant pour un instant comme un chat sauvage, et ses cheveux et sa barbe se hérissant, il poussa un cri aigu et féroce et s'élança à la gorge du géant avec autant d'impétuosité qu'il lui fit perdre l'équilibre malgré sa corpulence et sa vigueur. L'aubergiste tomba avec le fracas d'un rocher qui s'écroule et son furieux adversaire roula sur lui. Notre hôte n'aurait pas eu besoin de la corde que lui offrait si généreusement Lydon s'il était resté 3 minutes de plus dans cette position. Mais le bruit de sa chute fit accourir à son aide sur le champ de bataille une femme qui était tenue jusqu'alors dans une chambre de derrière. Cette nouvelle alliée aurait pu toute seule lutter contre le gladiateur. Elle était de haute taille, maigre, et elle avait des bras qui pouvaient donner autre chose que de doux embrassements. En effet, la gracieuse compagne du Bourbeau, le marchand de vin, avait comme lui combattu dans le cirque et même sous les yeux de l'empereur. Bourbeau l'invincible, Bourbeau, dit-on, cédait quelquefois la palme à sa douce Stratonice. Cette aimable créature ne vit pas plutôt l'imminent péril où se trouvait son époux que, sans autres armes que celles que la nature lui avait données, elle se précipita sur le gladiateur et le saisissant par le milieu du corps de ses bras longs et pareils à 2 serpents, elle le souleva au-dessus de l'aubergiste, ne lui laissant que les mains encore attachées au cou de son ennemi. C'est ainsi que nous voyons parfois un chien enlevé par les pattes de derrière, par quelque domestique envieux dans une lutte où il a terrassé son adversaire. Une moitié de l'animal demeure suspendue dans les airs, passive et inoffensive, tandis que l'autre moitié, tête, dents, yeux et griffes, semble ensevelie et engloutie dans les chairs palpitantes du vaincu. Pendant ce temps-là, les gladiateurs élevés et nourris dans le sang, qu'ils suçaient en quelque sorte avec plaisir, entourèrent joyeusement les combattants. Leurs narines s'ouvrirent, leurs lèvres ricanèrent, leurs yeux se fixèrent avidement sur la gorge saignante de l'un et sur les griffes dentelées de l'autre. « Habet !» Il a son compte. « Habet !» s'écrièrent-ils avec une espèce de hurlement et en frottant leurs mains nerveuses les unes contre les autres. « Non, abéo, menteur !»« Non, je n'ai pas mon compte !» cria l'hôte en se délivrant par un puissant effort des mains terribles de Lydon et en se redressant sur ses pieds, respirant à peine, déchiré, sanglant. Il grinça des dents et jeta un regard, d'abord voilé puis enflammé de courroux, sur son adversaire qui se débattait, oh non pas sans mépris, entre les mains de la fière Amazone. Beau jeu ! S'écrièrent les gladiateurs, un contre un. Entourant Lydon et sa femme, ils séparèrent l'hôte aimable de son gracieux habitué. Mais Lydon, rougissant de sa position et essayant en vain de se débarrasser de l'étreinte de la virago, mit la main à sa ceinture et en tira un petit couteau. Son regard était si menaçant et la lame du couteau était si brillante que Stratonis recula avec effroi, car elle n'employait pas d'autre mode de combattre que celle que nous avons appelée pugilat. « Oh Dieu ! S'écria-t-elle. « Le misérable, il a des armes cachées. Est-ce qu'une bonne guerre ? Est-ce là agir en galant homme et en gladiateur ? Non, certes, et de tels compagnons ne sont pas faits pour moi. » Elle tourna le dos au gladiateur avec dédain et s'empressa d'examiner l'état de son mari. Mais celui-ci, aussi accoutumé à cet exercice naturel qu'un bulldog anglais à se battre avec un antagonisme inférieur, s'était déjà remis. La pourpre ajoutée au cramoisi de ses joues par la lutte s'éteignit un peu. Les veines de son front se dégonflèrent et reprirent leur surface ordinaire. Il se secoua avec un grognement de satisfaction, heureux de se sentir encore vivant, et en regardant son adversaire de la tête aux pieds avec un air plus approbatif qu'il ne l'avait encore fait. « Ah, par Castor, dit-il, tu es un gaillard plus vigoureux que je ne le croyais. Je vois que tu es un homme de mérite et de vertu. Allez, donne-moi la main, mon héros. »« Très bien, vieux Bourbeau, s'écrièrent les gladiateurs en applaudissant. « Très bien, solide compagnon. Allez, donne-lui ta main, Lydon. » « Avec plaisir, dit le gladiateur. Mais à présent que j'ai goûté à son sang, j'ai envie d'en boire encore. » « Par Hercule, répliqua l'autre sans s'émouvoir, excellente idée de gladiateur. Pollux, oh, ce que c'est qu'une bonne éducation. Une bête sauvage n'aurait pas plus de férocité. » « Une bête sauvage, idiot. Est-ce que nous ne les battrons pas, les bêtes sauvages ? » s'écria Détraïdès. « c'est bien, dit Stratonis, qui était occupé à réparer le désordre de ses cheveux et de sa toilette. « Si vous êtes bons amis maintenant, je vous recommande de vous tenir en paix et convenablement, car quelques jeunes patriciens, vos patrons et parieurs, ont envoyé dire qu'ils se tiendraient pour vous faire visite. Ils désirent vous voir plus à leur aise qu'ils ne vous voient aux écoles, avant de régler leur enjeu pour le plus grand combat de l'amphithéâtre. Ils recherchent toujours ma maison pour ces affaires-là. Ils savent bien que nous ne recevons que les meilleurs gladiateurs de Pompéi. Société choisie, grâce aux dieux. Oui, continua Bourbon en vidant une coupe, ou plutôt un seau de vin. Un homme qui a conquis autant de lauriers que moi ne peut encourager que les braves. Allez, Lydon, bois, mon enfant, puisses-tu avoir une vieillesse honorable comme la mienne. Viens, dit Stratonis à son mari en lui tirant affectueusement les oreilles, caresse que Tibulle a décrite avec tant de charme. Viens donc. Pas si fort, louve, tu es pire que le gladiateur, murmurèrent les larges mâchoires de Bourbon. Chut, lui dit-elle à voix basse. Calenus vient de se glisser ici, déguisé, par la porte de derrière. Il apporte les sesterces, j'espère. Oh, je vais le trouver, dit Bourbon. En attendant, perds pas les coupes de vue et fais attention au compte de chacun. Ne te laisse pas tromper, femme. Ce sont des héros, oh, sans nul doute, mais ce sont aussi de vrais fripons. Cacus n'était rien à côté d'eux. « Ne crains rien, sot !» fut la réponse conjugale. Bourbon, satisfait de cette tendre assurance, traversa l'appartement et passa dans les pénétralia. « Ah si, ces doux patrons vont venir examiner nos muscles, » dit Niger. « Qui t'a fait avertir de cela, hôtesse ?»« L'épidus !» Il amène avec lui Clodius, le plus sûr parieur de Pompéi, et le jeune grec Glaucus. Un pari à propos d'un pari, cria Tétraïdès. 20 sesterces que Clodius parlera sur moi. Qu'en dis-tu, dis donc? Oh non, moi je dis que ce sera sur moi. Non, sur moi, ajouta à son tour Sporus. Mais pauvre fou, croyez-vous qu'il puisse préférer quelqu'un à Niger? Reprit l'athlétique Niger en se nommant ainsi modestement lui-même. Allons bien, poursuivit Stratonis en perçant une grande amphore pour ses hôtes qui venaient de s'asseoir autour de l'une des tables. Hommes forts et braves comme vous pensez l'être, lequel de vous combattra le lion de Numidie dans le cas où aucun criminel ne se présentera pour vous priver de cet honneur? Moi, qui ai échappé à vos griffes, fier Stratonis, dit Lydon, je pourrais, je crois, affronter le lion. Mais dites-moi, demanda Tradidès en s'adressant à l'hôtesse, où donc est votre jeune et jolie esclave, la pauvre aveugle dont les yeux sont si brillants? Il y a longtemps que je ne l'ai vue. Oh, elle est trop délicate pour toi, mon fils de Neptune, répondit l'hôtesse, et même pour nous. Nous l'envoyons vendre des fleurs en ville et chanter des chansons aux dames. Elle nous gagne plus d'argent ainsi qu'elle ne le ferait en demeurant à vous servir. En outre, elle a d'autres emplois qui restent sous la rose. D'autres emplois, dit Niger, mais elle est trop jeune pour d'autres emplois. Silence brut, dit Stratonis. Vous ne croyez pas qu'il y ait d'autres jeux que celui de Corinthe? Quand Nydia aura deux fois l'âge qu'elle a à présent, elle serait également digne de Vesta, la pauvre enfant. Mais écoutez, Stratonis, dit Lydon, comment vous est venue cette esclave, si jeune et si gentille? Il conviendrait mieux qu'elle fût la suivante d'une riche matrone de Rome que la vôtre. C'est vrai, répondit Stratonis, et quelques jours je compte faire ma fortune en la vendant. Vous me demandez comment Nydia nous est venue? Oui. Eh bien, tenez, mon esclave Staphyla, vous vous rappelez Staphyla, Niger? Parfaitement, oui, une fille aux larges mains, avec une figure dans le genre d'un masque comique, comment l'oublierais-je? Par Pluton, dont elle est probablement la servante à cette heure. Paix, butard! Staphyla mourut un jour. Et ce fut une grande perte pour moi. Et j'allais au marché pour acheter une autre esclave. Mais, par les dieux, elles étaient devenues si chères depuis que j'avais acheté sa fille-là. Et l'argent était si rare que je me disposais à quitter la place avec un vrai désespoir lorsqu'un marchand m'attira par la robe. Maîtresse, dit-il, tu veux acheter une esclave à mon marché? J'ai une offre à vendre, un marché d'or. Elle est très petite, toute jeune encore, c'est vrai, mais elle est vive et douce, docile et adroite. Elle chante bien, elle est de bonne race, je t'assure. De quelle contrée est-elle, dis-je? De Thessalie. Je savais que les Thessaliennes étaient avisées et gentilles. Je lui demandais à voir la fille. Je la trouvais, comme vous la voyez maintenant, à peine plus petite et plus jeune en apparence. Elle avait un air patient et résigné, les mains croisées sur sa poitrine et les yeux baissés. Je m'informai du prix, il était raisonnable, et je l'achetai sur le champ. Le marchand la mena à la maison et disparut aussitôt. Songez, mes amis, à mon étonnement lorsque je m'aperçus qu'elle était aveugle. Ah, ah, un rusé coquin que ce marchand! Je courus porter plainte au magistrat, mais le drôle avait déjà quitté Pompéi. Je fus forcé de revenir chez moi, et de fort mauvaise humeur, je vous l'avoue. La pauvre fille a ressenti les effets. Ce n'était pas sa faute si elle était aveugle. Elle l'était depuis sa naissance. Peu à peu, nous nous réconciliâmes avec notre marché. Elle n'avait pas assurément la force de sa fille-là. Elle était de peu d'utilité dans la maison. Mais elle savait trouver son chemin dans la ville, comme si elle possédait les yeux d'Argus. Et lorsque nous vîmes un matin qu'elle nous rapportait une poignée de sesterces, qu'elle avait gagné à vendre des fleurs cueillies dans notre petit jardin, nous pensâmes que c'était les dieux qui nous l'avaient envoyée. Alors, depuis ce temps-là, nous la laissons aller où elle veut, remplissant sa corbeille de fleurs qu'elle tresse en guirlande, selon la mode thessalienne, ce qui plaît aux jeunes gens. Le grand monde a pris de l'affection pour elle, car on lui paie ses fleurs bien plus chères qu'aux autres bouquetières, et elle rapporte tout ce qu'elle gagne à la maison, ce qu'aucune autre esclave ne ferait. C'est pour cela que je travaille moi-même. Mais ces profits me mettront bientôt en état d'acheter une autre staphyla. Il est probable que quelque voleur thessalien aura enlevé la jeune aveugle à d'honnêtes parents. Outre son adresse à composer des guirlandes, elle a le talent de jouer de la cithare pour accompagner ses chants. C'est encore d'un bon rapport. Et enfin, dernièrement, oh, mais ceci est un secret. « Un secret ?» s'écria Lydon. « Êtes-vous devenu un sphinx ?»« Sphinx, non, pourquoi sphinx ?»« Cesse ton commérage, bonne maîtresse, et apporte-nous à manger. J'ai faim, » dit Sporus. « Et moi aussi, » ajouta le morose Niger, en aiguisant son couteau sur la paume de sa main. L'Amazone se rendit à la cuisine et revint quelques instants après, avec un plateau surmonté de gros morceaux de viande à moitié crue. Car, alors comme à présent, les héros de la lutte croyaient cette nourriture plus propre à entretenir leur hardiesse et leur férocité. Ils entourèrent la table comme des loups affamés aux yeux étincelants. Les viandes disparurent, le vin coula. Mais laissons là ces importances des classiques personnages pour suivre les pas de Bourbeau. Chapitre 2. Deux illustres personnages. Dans les premiers temps de Rome, la profession de prêtre n'était pas une profession de gain, mais d'honneur. Elle était embrassée par les citoyens les plus nobles et interdite aux plébéiens. Plus tard et longtemps avant l'époque dont il est question, elle était ouverte à tous les rangs, du moins cette partie de la profession qui comprenait les flamines, les prêtres non de la religion en général, mais des dieux particuliers. On avait remis au choix du peuple la dignité réservée d'abord aux patriciens du prêtre de Jupiter, Flamen Dialis, que précédait un licteur et dont la place donnait entrée au Sénat. Les divinités moins nationales, moins honorées, étaient desservies ordinairement par des ministres plébéiens. Beaucoup d'entre eux choisissaient cet état moins par impulsion religieuse que par calcul pour échapper à la pauvreté. Ainsi, Calénus, prêtre d'Isis, était de la plus basse origine. Sa famille, à l'exception de son père et de sa mère, était une famille d'affranchis. Il avait reçu d'eux une éducation convenable et de son père un petit patrimoine qu'il avait bien vite dévoré. Il embrassa la prêtrise comme une dernière ressource dans son malheur. Quels que fussent les émoluments de cette profession sacrée, qui à cette époque n'est pas probablement considérable, les ministres du temple populaire n'avaient pas à se plaindre du casuel de leur vocation. Il n'y en a pas de plus lucrative que celle qui repose sur les superstitions de la multitude. Calénus n'avait plus qu'un seul parent vivant à Pompéi, c'était Bourbo. Divers liens, obscurs et honteux, plus forts que ceux du sang, unissaient leurs cœurs et leurs intérêts. Et souvent le ministre d'Isis, déguisé, s'échappait furtivement du temple où il était supposé en dévotion, et se glissant par la porte de derrière du gladiateur retiré, homme infâme à la fois par ses vices et par son métier, se réjouissait de jeter le masque de l'hypocrisie. Masque qui, malgré son avarice, sa passion dominante, lui semblait trop lourd à porter. D'une nature aussi brutale que la sienne, ça comme des mal de ces singeries de la vertu. Enveloppé dans un de ces larges manteaux que les Romains adoptèrent à mesure qu'ils abandonnèrent la toge, et dont les amples plis cachaient la taille, pendant qu'une sorte de capuchon qui y était attaché pouvait également cacher les traits, Calénus, assis dans la petite chambre particulière du marchand de vin, laquelle communiquait par un petit passage avec l'entrée dérobée habituelle à presque toutes les maisons de Pompéi. En face de lui, le majestueux Bourbeau comptait avec soin, sur une table qui était placée entre eux, une petite pile de monnaie que le prêtre venait tirer de sa bourse. Car les bourses étaient aussi communes à cette époque qu'à la nôtre, avec cette différence qu'elles étaient ordinairement mieux garnies. « Tu vois, dit Calénus, que nous te payons grandement et tu devrais me remercier de t'avoir procuré un pareil profit. » Ainsi fais-je, cher Calénus, ainsi fais-je, répondit Burbeau d'une manière affectueuse, en plaçant la monnaie dans une bourse de cuir, puis la bourse dans sa ceinture, dont il serra la boucle autour de sa vaste taille, plus soigneusement qu'il n'avait coutume de le faire lorsqu'il vaquait à ses occupations domestiques. Parisis, Paripissis et Nissis, ou toute autre divinité qui puisse exister en Égypte, ma petite Nydia est une véritable Hespéride d'un jardin d'or pour moi. Elle chante bien et joue de la cithare comme une muse, reprit Calénus. Ce sont là des talents que celui qui m'emploie paye toujours généreusement. Mais c'est un dieu, s'écria Burbeau avec enthousiasme. Tout homme riche qui est généreux mérite des autels. Mais allons, mon vieil ami, une coupe de vin. Dis-moi un peu ce qui en est. Qu'a-t-elle fait? Elle est toute effrayée. Elle parle de son serment et ne veut rien révéler. Je ne parlerai pas davantage. Je fais aussi le vœu terrible de garder le secret. Des serments? Mais est-ce qu'il y a des serments pour nous autres? Non, c'est bien pour les serments ordinaires, mais celui-ci... Et le prêtre hardi frémit dans ses paroles. Cependant, ajouta-t-il en remplissant une large coupe de vin pur, je t'avouerai que ce n'est pas tant le serment que je crains de rompre, mais c'est la vengeance de l'homme qui me l'a imposé que je crains. Par les dieux, c'est un puissant magicien. Il saurait tirer ma confidente de la lune si j'avais eu la faiblesse de la prendre pour confidente. N'en parlons plus. Par Pollux, quelque divin que soient les banquets auxquels j'assiste chez lui, je n'y suis jamais à mon aise. Je préfère une heure joyeusement passée avec toi et avec une de ces bonnes filles, simples et rieuses, que je rencontre dans cette chambre, tout enfumée qu'elle est. Oh oui, je préfère une heure pareille à une nuit de ces magnifiques débauches. Mais s'il en est ainsi, demain, plaise aux dieux, nous aurons une petite fête ici. « À la bonne heure !» dit le prêtre en se frottant les mains et en se rapprochant de la table. Dans ce moment, ils entendirent un léger bruit à la porte, comme si l'on cherchait à entrer. Le prêtre mit son capuchon sur sa tête. « Inutile précaution !» dit l'hôte. « Ça ne peut être que la jeune aveugle. » Nydia ouvrit en effet la porte en entrant dans la chambre. « Ah, fillette, comment te portes-tu? Tu es pâle, tu as veillé tard à ce banquet. N'importe, la jeunesse est toujours la jeunesse, » dit Bourbeau d'un ton encourageant. La jeune fille ne répondit pas, mais elle se laissa tomber sur un des sièges avec un air de lassitude. Son visage changea plusieurs fois de couleur. Elle frappait impatiemment le pavé avec ses petits pieds. Elle éleva subitement la tête et dit d'une voix fermement accentuée, « Maître, vous pouvez me laisser mourir de faim si vous voulez. Vous pouvez me battre, vous pouvez me menacer de la mort, mais je n'irai plus dans cette maison infâme. Que cela saute ! S'écria Bourbon d'une voix sauvage, et ses épais sourcils se hérissèrent sur ses yeux courroucés et rouges. Tu te révoltes, je crois, prends garde. Je l'ai dit, reprit la jeune fille, en croisant ses bras sur sa poitrine. Alors, ma douce, ma modeste vestale, si tu ne veux pas y aller, c'est bien, très bien, on t'y portera. Je remplirai la ville entière de mes cris, s'écria l'enfant d'un ton passionné, et une vive rougeur colora son front. Nous y veillerons, oh, tu iras avec un baillon. Que les dieux aient pitié de moi, alors, dit Nidia en se levant. Je porterai plainte au magistrat. Souviens-toi de ton serment, répliqua une voix caverneuse, celle de Calénus, qui prenait part pour la première fois au dialogue. À ces mots, un tremblement nerveux agita la jeune aveugle. Elle joignit les mains comme si elle priait. Malheureuse que je suis, s'écria-t-elle, et elle laissa éclater de violents sanglots. Soit que le bruit de ce chagrin véhément eût attiré l'aimable Stratonis, soit qu'elle vint par hasard, sa figure décharnée se montra en ce moment dans la chambre. Qu'est-ce donc ? Que faites-vous à mon esclave brute ? Dit-elle avec aigreur à Bourbeau. Calme-toi, femme, répondit-il d'un ton moitié bourru, moitié timide. Tu veux de ceinture neuve et de beaux habits, n'est-ce pas ? Eh bien, fais attention à tes esclaves, ou tu n'en auras pas de longtemps. Voi capitituo, vengeance sur la tête, misérable fille. Mais qu'y a-t-il donc ? Reprit la sorcière, en regardant tantôt l'un, tantôt l'autre. Nidia, par un bond soudain, s'élança du mur près duquel elle s'appuyait et se jeta aux pieds de Stratonis. Elle embrassa ses genoux, élevant vers elle ses yeux si doux, quoique sans regard. « Oh, ma maîtresse, dit-elle en pleurant, vous êtes une femme, vous avez eu des sœurs, vous avez été jeune comme moi. » Ayez pitié de moi, sauvez-moi, je ne veux plus aller à ces horribles festins. Paix, dit la sorcière, en secouant durement une des mains de la jeune fille, main délicate que l'on n'aurait pas dû imposer de tâches plus pénibles que celle de tresser en guirlande les fleurs qu'elle vendait. Paix, ces beaux scrupules ne sont pas faits pour des esclaves. « Écoutez, dit Bourbeau, tirant sa bourse et montrant ce qu'elle contenait. Écoutez cette musique, femme. Par Pollux, si vous ne savez pas brûler comme il faut cette pouliche, vous ne l'entendrez plus. » « La jeune fille est fatiguée, dit Stratonis en s'adressant à Calénus. Elle sera plus docile la première fois que vous en aurez besoin. Vous ? Vous, mais qui êtes donc ici ? S'écria Nidia, roulant les yeux autour de l'appartement, avec une expression si épouvantée et si désespérée que Calénus se leva de son siège. Il faut qu'elle voie avec ses yeux-là, murmura-t-il. Mais qui est ici ? Parlez au nom du ciel. Ah, si vous étiez aveugle comme moi, vous seriez moins cruel, dit-elle. Et de nouveau elle versa les larmes. « Emmenez-la, s'écria Bourbeau, je hais les pleurnicheries. »« Viens, dit Stratonis en poussant l'enfant dehors par les épaules. » Nidia s'éloigna vivement d'elle, avec un air auquel la résolution donnait de la dignité. « Écoutez-moi, dit-elle, je vous ai servi fidèlement. » Moi qui avais été élevée, oh ma mère, ma pauvre mère, auriez-vous pu penser que j'en serais venue à ce degré de misère ? Elle essuya les larmes de ses yeux et continua. Mais commandez-moi toute autre chose et j'obéirai. Mais je vous le dis maintenant, ferme, résolue, inexorable comme vous, je vous répète que je n'irai plus dans ce lieu. ou que, si j'y suis forcé, j'implorerai la protection du prêteur lui-même. Soyez-en certain. Écoutez-moi, grand Dieu, je le jure. » Les yeux de la sorcière étaient flamboyants. Elle saisit l'enfant par les cheveux d'une main et leva l'autre sur elle. Cette formidable main droite, dont le moindre coup était capable d'écraser la frêle et délicate créature qui tremblait sous son étreinte. Cette considération parut frapper Stratonis, car elle suspendit le coup. Changeant de dessein et attirant Nydia près du mur, elle détacha d'un crochet une corde qui avait servi plusieurs fois à l'usage qu'elle en voulait faire. Les cris de la pauvre aveugle retentirent bientôt dans toute la maison. Chapitre 3. Glaucus fait un marché qui plus tard lui coûte cher. « Hola, mes braves compagnons !» dit Lépidus en baissant la tête pour entrer par la porte basse de la maison de Burbo. « Nous sommes venus voir qui de vous fera plus d'honneur à notre laniste. » Les gladiateurs se levèrent de la table avec respect en voyant entrer trois jeunes gens connus pour être des meilleurs vivants et des plus riches de Pompéi, et dont les voix dispensaient la réputation à l'amphithéâtre. « Quels beaux animaux !» dit Claudius à Glaucus. « Vraiment digne d'être gladiateur !»« C'est une pitié qu'il ne soit pas soldat !» dit Glaucus. C'était une chose singulière de voir l'efféminé, l'ennui et l'épidus, que dans un banquet à rayons de lumière semblait aveugler, que dans un bain le moindre courant d'air semblait anéantir, en qui tout instinct naturel paraissait perverti, devenu en quelque sorte une créature équivoque et artificielle. C'était une singulière chose, disons-nous, de le voir à cette heure, tout empressé, tout énergique, tout vivant, tâter les vastes épaules des gladiateurs d'une main blanche féminine, éprouver d'une touche légère leurs muscles de fer, en un mot, plein d'admiration pour cette force qu'il avait passé toute sa vie à détruire en lui. Oh, c'est ainsi que nous avons vu de nos jours les fashionables sans barbe des salons de Londres tourner autour des héros de Fire's Court. C'est ainsi que nous les avons vus souvent contempler, admirer ces hommes en calculant à Paris. C'est ainsi que nous avons trouvé réunis, dans un assemblage plaisant et triste, les deux extrêmes de la société civilisée, les patrons du plaisir et ses esclaves, les plus vils de ces esclaves, à la fois féroces et mercenaires, prostituées mâles qui vendent leur force comme les femmes leur beauté, bêtes brutes dans leurs actes, mais plus que des bêtes dans le motif qui les fait agir, car les autres du moins ne se dévorent pas pour de l'argent. « Ah, Niger, dit Lépidus, comment vous battez-vous, avec qui ?»« Sporus m'a défié, répondit le géant, et ce sera, j'espère, un combat à mort. »« Certainement, reprit Sporus en clignant ses petits yeux. Il prend l'épée, moi, le nœud et le trident, ce sera un rare divertissement. Oh, j'espère que le survivant aura de quoi soutenir la dignité de la couronne. » « Ne crains rien, nous remplirons ta bourse, mon Hector, » dit Claudius. « Voyons, vous vous battez avec Niger, Glaucus. À Paris, je prends Niger. »« Je vous le disais, » s'écria Niger d'un air triomphant. « Le noble Claudius me connaît. Compte que tu es déjà mort, Sporus. » Claudius tira ses tablettes. « Je parie 10 sesterces, cela vous va-t-il ?»« Soit, » dit Glaucus. « Mais qui donc avons-nous ici ? Je n'ai jamais vu ce brave auparavant. » Et il jeta un regard sur Lydon, dont les membres étaient plus élégants que ceux de ses compagnons. Un reste de grâce et de noblesse brillait encore dans ses traits. Sa nouvelle profession n'avait pas dépouillé sa personne de tout charme. « C'est Lydon, le plus jeune d'entre nous, qui ne s'est encore servi que d'une épée de bois, » dit Niger. « Mais il a du bon sang dans les veines. Il a déjà provoqué des traînesses. Non, non, c'est lui qui m'a défié, dit Lydon. J'ai accepté son défi. Et comment combattrez-vous ? Demanda Lépidus. Cependant, mon enfant, attendez encore un peu. Croyez-moi avant de vous commettre avec les traînesses. Lydon sourit dédaigneusement. Est-il citoyen ou esclave ? Dit Claudius. Citoyen, nous sommes tous citoyens ici, répondit Niger. Étendez le bras, mon Lydon, reprit Lépidus d'un air de connaisseur. Le gladiateur, lançant un regard significatif à ses compagnons, étendit un bras qui, s'il n'était pas aussi énorme que les leurs dans sa circonférence, était pourvu de muscles si fermes et possédait tant de symétrie dans ses proportions que les trois visiteurs poussèrent à la fois un cri d'admiration. « Bien, jeune homme, quelle est votre arme ?» dit Claudius, ses tablettes à la main. Ben, nous y combattrons avec le ceste, et après, si tous deux survivent, avec l'épée, s'empressa de dire Tétraïdès, plein d'humeur et d'un ton jaloux. Avec le ceste, s'écria Glaucus, vous avez tort, Lydon. Le ceste est en usage chez les Grecs, je le connais bien. Vous auriez dû vous engraisser pour un pareil combat. Vous êtes trop maigre. Non, vraiment, évitez le ceste.
Je ne le puis, répondit Lydon.
Et pourquoi ?
Ben, je vous l'ai dit, parce qu'il m'a défié.
Mais il ne vous forcera pas à prendre une arme désignée.
Mon honneur m'y force, dit Lydon avec orgueil.
Je mets sur tes traînes deux contre un au ceste, reprit Glaudius, au père à l'épée. Est-ce dit, Lépidus ?
Mais quand vous m'offririez trois contre un, je n'accepterai pas, répliqua Lépidus.
Lydon n'en viendra jamais à l'épée. Vous êtes mille fois trop bon.
Et vous, Glaucus, qu'en pensez-vous ? Dit Claudius.
J'accepte trois contre un, 10 sestertia contre 30.
Oui.
Claudius écrivit le pari sur ses tablettes.
Pardonnez-moi, noble patron, dit Lydon à voix basse à Claudius. Combien pensez-vous que le vainqueur gagnera ?
Combien, peut-être 7 sestertia.
Autant que cela, êtes-vous sûr ?
Au moins, mais honte à toi. Un Grec aurait songé à l'honneur, non à l'argent. Oh, Italien, vous serez toujours Italien.
Une rougeur couvrit la joue bronzée du gladiateur.
Ne me jugez pas mal, noble Glaucus. Je songe aux dieux, mais je ne me serais jamais fait gladiateur si j'avais manqué d'argent.
Puisses-tu tomber dans l'arène, un avare ne sera jamais un héros.
Mais je ne suis pas un avare, dit Lydon avec fierté. Et il se retira dans un coin de l'appartement.
Mais je ne vois pas Burbo. Où est Burbo ? S'écria Claudius.
Je veux parler à Burbo.
Il est là, dit Niger en montrant la chambre qui se trouvait à l'extrémité de la salle.
Et Stratonis, la toute gracieuse Stratonis, où est-elle ? Demanda Lépidus.
Ben, elle était ici quelques instants avant votre arrivée, mais elle a entendu je ne sais quel bruit qui lui déplaisait, elle a disparu.
Pollux, oh, le vieux Burbo aurait peut-être caché une jeune fille dans sa chambre.
J'ai entendu, ce me semble, une voix de femme qui exhalait une plainte.
La vieille dame est jalouse contre Junon, comme Junon.
En ce moment, un grand cri d'angoisse et de terreur fit tressaillir toute la compagnie.
Excellent ! S'écria Lépidus en riant. Venez, Claudius, partageons avec Jupiter, il a peut-être rencontré une Léda.
Oh, épargnez-moi, épargnez-moi, je ne suis qu'une enfant, je suis aveugle, n'est-ce pas assez de ce châtiment pour moi ?
Mais par pas là, je reconnais cette voix. C'est la voix de ma pauvre bouquetière, s'écria Glaucus, et il s'élança aussitôt vers l'endroit d'où partaient ses cris. Il ouvrit vivement la porte. Il vit Nydia se tordant sous l'étreinte de la vieille irritée. La corde, déjà teinte de sang, tournoyait en l'air. Il s'en empara d'une main. « Furie ! » dit Glaucus, et de son autre main, il arracha Lydia à la vieille. « Comment osez-vous maltraiter ainsi une jeune fille, une personne de votre sexe, une enfant ? Ma Nydia, ma pauvre enfant !»«
Oh, est-ce vous, est-ce Glaucus ?» s'écria la bouquetière avec un indicible transport. Les larmes s'arrêtèrent sur ses joues. Elle sourit, se pressa sur son sein et baissa sa robe en s'y attachant.
« Et comment osez-vous, insolent étranger, vous interposer entre une femme libre et son esclave ? Parlez, Dieu, en dépit de votre belle tunique et de vos affreux parfums, je doute que vous soyez un citoyen romain, mon petit homme. »
« Parle au mieux, maîtresse, parle au mieux, » dit Claudius, qui entra avec Lépidus. « C'est mon ami et mon frère juré. Il veut être à l'abri de votre langue, ma colombe. Il pleut des pierres. »«
Rendez-moi mon esclave !» s'écria la virago en mettant sa forte main sur la poitrine du grec.
« Non pas, quand toutes les furies vos sœurs vous assisteraient, » répondit Glaucus.
« Ne crains rien, ma douce Nydia. Un Athénien n'a jamais abandonné les malheureux. »«
Oh là !» dit Bourbon en se levant, quoiqu'à regret. « Pourquoi tout ce bruit à propos d'une esclave ?»«
Laissez tranquille ce jeune patricien, femme, qu'il s'en aille. À cause de lui, faites grâce pour cette fois à cette impertinente. »
En parlant ainsi, il éloigna, ou plutôt il entraîna, sa féroce compagne.
Il me semble que lorsque nous sommes entrés, il y avait un autre homme ici, dit Claudius. Il est parti.
Car le prêtre d'Isis avait pensé qu'il était pour lui grand temps de disparaître.
Oh, un de mes amis, un camarade, un chien tranquille. « Qui n'aime pas les querelles, » dit Burbeau négligemment. « Mais retirez-vous, enfant. Vous allez déchirer la tunique de ce noble jeune homme, si vous vous y cramponnez ainsi. Retirez-vous. On vous a pardonné. »«
Oh, ne m'abandonnez pas !» s'écria Nydia, en s'attachant davantage à l'Athénien. Émue de sa situation, de l'appel qu'elle faisait à sa générosité, non moins que de sa grâce touchante et inexprimable, le grec s'assit sur un des rudes sièges de la chambre et prit Nydia sur ses genoux. Il essuya avec ses longs cheveux le sang qui coulait sur les épaules de la jeune fille et avec ses baisers les larmes qu'elle avait sur les joues. Il lui dit ces mille et mille tendres mots dont on se sert pour calmer le chagrin d'un enfant. Il parut si beau dans cette douce œuvre de consolation que le cœur féroce de Stratonis en fut lui-même ému. La présence de l'étranger semblait répandre une lumière dans cet antre obscur et obscène. Jeune, magnifique, glorieux, il offrait l'emblème du bonheur le plus parfait de la terre qui relève le malheur le plus désespéré.
« Qui aurait pu penser que notre Nydia aurait été honorée à ce point ?» dit la virago en essuyant la sueur de son front.
Glaucus regarda Bourbon. « Brave homme, dit-il, c'est votre esclave. Elle chante bien. Elle a l'habitude de soigner les fleurs. Je veux faire présent d'une esclave pareille à une dame. Voulez-vous me la vendre ? Pendant qu'il parlait, il sentit tout le corps de la pauvre fille trembler de plaisir. Elle se leva, elle écarta de son visage ses cheveux en désordre, elle jeta les yeux autour d'elle comme si elle pouvait voir. « Vendre notre Nia, Nidia, non pas !» dit Stratonis brusquement. Nidia se laissa retomber avec un profond soupir et s'attacha de nouveau à la robe de son protecteur. « Imbécile !» dit Claudius d'un ton important. « Vous devez faire cela pour moi. Allons, l'homme et la femme, si vous m'offensez, votre état est perdu. » Bourbeau n'est-il pas le client de mon cousin Pansa? Ne suis-je pas l'oracle de l'amphithéâtre et de ses champions? Je n'ai qu'à dire un mot pour que vous brisiez toutes vos cruches. Vous ne vendrez plus rien. Glaucus, l'esclave est à vous. Bourbeau, évidemment embarrassé, grattait sa large tête. « La fille vaut son pesant d'or pour moi, dit-il. Dites votre prix, je suis riche, répondit Glaucus. » Les anciens Italiens étaient comme les modernes. Il n'y avait rien qui ne fût prêt à vendre à plus forte raison pour une pauvre fille aveugle. « Mais j'ai payé 6 sestertia pour elle, elle en vaut 12 maintenant, murmura Stratonis. « Je vous en donne 20. Accompagnez-moi chez les magistrats et de là à ma meneur, vous recevrez votre argent. » « Vous n'aurez pas vendu cette chère enfant pour 100, dit Bourbeau adroitement. « Je ne vous la cède que pour faire plaisir au noble Claudius. Vous me recommanderez à Pansa pour la place de désignator à l'amphithéâtre, noble Claudius. Elle me conviendrait beaucoup. » « Vous l'aurez, dit Claudius, en ajoutant avec un sourire. Ce grec peut faire votre fortune. L'argent coule dans ses doigts comme l'eau dans un crible. Marquez le jour avec de la crème, mon Priam. Andabis, dit Glaucus, employant la formule habituelle des ventes et achats. Tu me la donneras ? Dabitur, répondit Bourbeau. Elle te sera donnée. Allons, alors je vais aller avec vous. Avec vous. Oh, 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 quel bonheur, murmura Nidia. Oui, ma belle, et ta tâche la plus rude sera désormais de chanter les hymnes de la grâce à la plus aimable dame de Pompéi. La jeune fille se dégagea de son étreinte. Un changement s'opéra sur ses traits, si plein de joie tout à l'heure. Elle soupira profondément, et prenant encore une fois sa main, elle dit « Mais je croyais que j'allais chez vous. » « Oui, pour le moment, viens, nous perdons du temps. »